Bienvenue à Evergreens by Spuekis, un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présenté par Brian Ferrari, voici ses invités.
Nicolas Grilich, associé chez Deloitte Luxembourg et en charge de l'intelligence artificielle et de la gestion des données.
Francesco Ferrero, je suis responsable de la recherche du LIST en intelligence artificielle, sciences des données, développement de logiciels et aussi de la stratégie en intelligence artificielle.
Rachid Mawash, donc je suis le Chief Data Officer and Head of Business Unit Data Management chez Spuekis.
Bienvenue à un nouvel enregistrement du podcast Evergreens by Spuekis, où on traite aujourd'hui d'un sujet que on l'avait déjà vu en mai 2023, si je me trompe pas. Et donc, depuis, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Donc, on voulait juste regarder un peu ce qui se passe, ce qui a changé. Et donc, on a de nouveau trois grands experts du sujet. Donc, qui a envie de nous raconter ce qui a fondamentalement changé suite à l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022 dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Depuis mai 2023, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, pour certaines personnes, ça va tellement vite que c'est compliqué à suivre. J'aime toujours mettre un développement dans son entièreté. Hein. Donc, on se rappelle que la Generative AI, ça a démarré en 2016, c'était de la recherche, puis ça arrivait en 2022 comme un résultat de recherche qui était disponible pour le public. Et de là, en fait, les acteurs technologiques se sont appropriés cette nouvelle techno, cette nouvelle évolution de l'intelligence artificielle. Et l'ont intégré dans leurs propres outils. Et on a vu, en fait, tous les acteurs du marché progressivement déployer leur propre LLM à disposition de la communauté, des entreprises, et les entreprises commençaient à regarder cette technologie et voir comment elles pouvaient l'utiliser. Et ça a posé beaucoup de sujets, c'est-à-dire des sujets qui étaient plus, en fait, de l'ordre du régalien, en termes d'aspects légaux, compliance, risque, comment on peut adopter cette technologie, puis aussi, en fait, communiquer vers les utilisateurs, et là, plutôt les employés des entreprises, pour leur expliquer comment on allait l'utiliser, parce que le premier usage a été plutôt dans la sphère privée. On sait que toutes les personnes qu'on connaît dans notre entourage, ils n'ont pas besoin, en fait, d'être des technologistes. Ils peuvent l'utiliser de manière tout à fait naturelle. On a tous nos parents, nos amis, nos enfants qui utilisent cette techno-là sans forcément être dans le domaine de la technologie. Et on a vu, en fait, un développement qui s'est fait pas uniquement sur la génération de contenu, de textes, de vidéos, mais aussi de l'appropriation pour augmenter les capacités d'autres types de domaines. Typiquement, en fait, ça s'est rentré, en fait, dans la technologie des drones pour améliorer la gestion de l'information dans ces appareils qui sont, en fait, sur batterie, qui ont des problèmes de consommation, de connectivité. Et on voit des domaines d'application comme dans l'agriculture, dans la recherche, après des incidents, des catastrophes naturelles, dans la recherche de personnes, ou dans l'évaluation de l'impact des biens. Donc, la portée de Generative AI, et je vais peut-être laisser les autres personnes en discuter, mais elle va au-delà de juste générer du contenu. Elle s'impacte dans tous les domaines de la société. Et évidemment, le financier ne fait pas exception, et peut-être qu'on en parlera justement plus tard.
Mais moi, je pense que la Generative AI, elle a popularisé l'intelligence artificielle. Les techniciens comme moi, on l'utilise depuis longtemps, l'intelligence artificielle, pour faire des prédictions, pour faire des analyses, pour la computer vision. Mais ça, ce n'était pas le domaine du grand public, alors que ChatGPT et les autres confrères, ils ont vraiment amené une interface utilisateur qui est hyper simple. Hein, et c'est ça qui a vraiment changé tout. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que l'interface, elle est hyper simple, mais la techno qu'il y a derrière, elle est hyper complexe. Et donc, il y a des aspects qui sont entièrement nouveaux. Par exemple, c'est une technologie non déterministe. Hein, donc, on peut avoir... En posant deux fois la même question, on n'aura pas la même réponse. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à l'habitude qu'on a quand on utilise des ordinateurs ou des technologies. On a l'habitude à la précision, alors qu'ici, il faut s'habituer à quelque chose de différent parce qu'il y a ce côté de créativité. Ce côté-là, il est tellement poussé que parfois, les modèles, ils peuvent halluciner, comme on dit techniquement. Donc, ils peuvent carrément inventer des choses. Donc, ça qui a créé plusieurs problèmes. Par exemple, des entreprises qui ont utilisé les chatbots comme des interfaces clients. Il y a des cas très célèbres. Quelqu'un qui a réussi acheter un véhicule pour $1 parce qu'il a réussi à convaincre le chatbot que c'était comme ça qu'il fallait faire et que le truc était légalement, disons, contraignant. Et donc, il y a le biais aussi, hein, le fait que les modèles sont entraînés sur des données qui sont créées par le grand public et donc qui reflètent forcément des tendances de la société. Et donc, pour tout ça, il faut effectivement réfléchir à comment préparer la société et les utilisateurs professionnels aussi, qui doivent respecter des règles, respecter des lois, produire des services de qualité, assurer la fiabilité des informations. Il faut travailler ensemble pour arriver à préparer cette deuxième phase avec une utilisation meilleure de la technologie.
Effectivement, donc l'IA et la générative IA, c'est au-delà du buzz, c'est une réalité. Donc on le constate depuis l'arrivée de ChatGPT, quand mes collègues l'ont précisé précédemment. Chacun il a utilisé dans sa vie privée, et donc il y avait un impact positif sur l'adoption de l'IA et de la générative IA, et donc c'était plus un pouce pour nous qu'on l'a constaté sur le terrain avec les différents métiers. Donc il y avait beaucoup plus d'appétit à utiliser ces technologies et on voit un bénéfique, mais forcément, toute nouvelle technologie vient avec ses propres menaces, ses propres dangers. Et donc, d'où l'IA Act est arrivé en 2024 pour cadrer tout ça et pour utiliser cette technologie en toute sécurité plutôt, et pour aider les différents utilisateurs et métiers dans leurs tâches répétitives et quotidiennes.
Donc encore une fois, un exemple que les autres, ils inventent et nous, on régule. Donc je pense qu'on était les premiers à mettre en place un AI Act, non ?
Pas vraiment, en fait. Les Chinois, en fait, ont sorti un papier similaire. C'est pas exactement l'AI Act, mais les mêmes principes, en fait, de contrôle et de régulation de l'AI 6 mois auparavant. Donc on a été, pour le coup, je pense qu'en... Dans l'idée, peut-être qu'on était les premiers, ça je sais pas très bien, enfin, faudrait voir avec les Chinois voir qui a pensé le premier, mais dans l'exécution et dans la publication d'un tel document, les Chinois l'avaient fait déjà l'été auparavant, là où le premier papier est arrivé en janvier pour l'Europe. Donc, pour le coup, on n'a pas été les premiers régulateurs.
Donc, si j'ai bien compris, on peut parler quand même que l'intelligence artificielle a été démocratisée, donc à travers les chatbots et tout ça. Donc, mais c'est pas au niveau de la démocratisation que ça se joue, parce que ça a une ampleur un peu beaucoup plus grande. Donc, il y a quand même des intérêts géopolitiques qui jouent. Donc, on a encore une fois les différents acteurs qui mènent et qui se font une petite bataille. Donc, corrigez-moi, mais j'ai l'impression que les Américains, ils mènent le tir. On a vu les Chinois qui ont longuement, tout le monde pensait qu'ils n'étaient pas sur le radar. En janvier, on a vu avec le nouvel modèle DeepSeek, donc, qui était très performant et qui était nettement moins cher que les concurrents américains. Tout ça, qu'est-ce que ça va nous dire pour le futur ?
Il y a deux aspects, je pense, dans ce que tu dis. D'un côté, c'est certain que les Américains, ils mènent le tir, et les Chinois, ils sont les grands suiveurs, et l'Europe, elle n'a pas aujourd'hui une capacité technique. Il y a certainement Mistral qui vient récemment aussi de signer un accord stratégique avec le gouvernement luxembourgeois. Il y a Aleph Alpha en Allemagne, il y a quelques petits acteurs, mais ils ne sont pas au niveau aujourd'hui, selon les benchmarks, des grands acteurs américains ou chinois. Il y a un aspect, à mon avis, qui est très important, c'est qu'il y a un petit nombre de sociétés privées qui développent des modèles qui ne sont pas open source. Hein. Ça, c'est notamment le cas des grands acteurs américains, et dont on est tous utilisateurs, mais en fait, on utilise des black box. Et ça, c'est un risque, hein, parce que finalement, on utilise une technologie qu'on ne maîtrise pas et dont on ne connaît pas le fonctionnement intérieur. Même les inventeurs, en fait, ils ne le connaissent pas. C'est un peu la logique du deep learning qui fait ça. Et il y a aussi le problème qu'avec les évolutions géopolitiques qu'on a vues, il y a un risque qu'un jour, on pourrait avoir des limitations dans l'accès à ces technologies. Donc, une banque, une société européenne qui doit aujourd'hui utiliser ces technologies pour son business, elle doit se poser le problème, est-ce que c'est une technologie fiable que je peux utiliser avec la continuité nécessaire ? Il faut dire aussi que l'Europe commence finalement à réagir. Hein. Donc, on a vu l'initiative de lancer les AI Factories. Hein. Donc, ça, c'est un grand projet de l'Europe, mais aussi des gouvernements nationaux. Hein. Et donc, il y a 13 AI factories qui sont déjà lancées, dont il y en a une à Luxembourg. Hein. Ça, c'est très important.
C'est quoi une AI factory?
Une AI factory, c'est deux choses. Donc, il y aura d'abord une nouvelle machine qui sera achetée à Luxembourg, Meluxina AI, hein, qui permettra de travailler comme elle aura plus de 2000 GPU de dernière génération. Elle permettra de travailler sur des modèles assez complexes, de faire du fine-tuning, d'entraîner des modèles plus larges. Et donc, ça va ouvrir des nouvelles possibilités pour le Luxembourg et pour les autres acteurs en Europe qui l'utilisent. Et l'AI Factory en soi, c'est un centre de service qui va accompagner toutes les entreprises et surtout les PME et les startups qui souhaitent utiliser cette nouvelle machine. Et moi, je suis très content du fait que le LIST en fait participe à ce projet, parce que finalement, ça veut dire qu'on pourra mettre à disposition l'expertise technique de nos scientifiques, de nos ingénieurs, pour vraiment aider les innovateurs et les entreprises à pouvoir utiliser une technologie qui est parfois difficile à maîtriser.
Peut-être pour compléter ton point en étant un peu plus positif sur le constat, je vais pas faire une redite de ce que tu as dit parce que c'est tout à fait exact. Je pense qu'en Europe, on a quand même des atouts parce que on voit ce qu'on est en train de faire. Les AI factories, le principe est arrivé il y a quelques mois. On les active. L'écosystème est là. On a des data centers. On a des supercomputers. On a entendu de la pénurie sur les cartes Nvidia. On les avait déjà dans nos data centers. Donc on n'est pas impacté par ça. Si on veut aller de l'avant, c'est une volonté. On voit qu'il y a une volonté politique qui est en train de s'affirmer. Mais on a, en fait, en termes de skills, on a les personnes qui existent. On a les centres de recherche. Le LIST n'a pas été créé hier, en fait, pour répondre à cet enjeu de GenAI parce qu'on serait en retard sur les Américains ou les Chinois. Le principe, c'est que il est vrai qu'on constate que l'innovation souvent vient de l'autre côté de l'Atlantique. Et ensuite, on la récupère. Je pense que là, on a, avec ce qui est en train de s'activer, on a une opportunité qui est de pouvoir, en fait, à nouveau être front-runner sur ces sujets-là. Parce qu'on a toutes les compétences. Le LIST a une centaine de data scientists. On les appelle comme ça maintenant. C'était déjà des chercheurs avant sur les intelligences artificielles. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui a plus de 70 ans. Donc, je pense qu'on a en fait tous les fondamentaux qu'il faut pour pouvoir avancer. Et c'est pas pour rien qu'en fait, le seul sujet nouveau qu'on a en Europe, c'est les AI-Act. C'est en fait juste en mettre de la réglementation autour de ces sujets-là. Et même cette réglementation-là n'est pas un frein à l'innovation. Elle vient juste en fait mettre des principes en place pour bien définir ce qu'on est en train de faire, pour être sûr qu'on le fait de façon sécurisée et pour pallier en fait tous les écueils que Lorenzo mentionnait avant. C'est-à-dire qu'il y a des biais, qu'un modèle LLM aujourd'hui, son principal défaut, c'est, pour pas trop rentrer dans la technique, il n'y a pas de causalité. Donc il va pouvoir observer, si je prends un exemple simple, il va pouvoir observer que le nombre de patients dans les hôpitaux augmente, mais il va pas en fait savoir pourquoi, connaître la cause en fait de ce qu'il observe. Est-ce qu'en fait il y a plus de patients malades dans les hôpitaux parce que les hôpitaux les rendent malades ou parce qu'en fait il y a plus de malades en dehors des hôpitaux qui vont vers les hôpitaux pour se soigner? Il saura pas le dire. Ça, c'est tout le problème, en fait, du biais. Et la recherche continue. Donc là, il y aura des choses à faire si je finis là-dessus. Le modèle de LLM aujourd'hui basé sur de la donnée que les êtres humains ont produit et qui a été digitalisé, hein, parce que tout n'a pas été digitalisé. On garde encore énormément d'informations, rien que notre expérience par nous-mêmes qui n'est pas documentée. C'est la première génération. Il y a de la recherche maintenant sur des modèles, en fait, qui se basent pas du tout sur de la donnée. On est sur du self-reasoning. Donc, on est sur une autre compétence et on peut pallier, en fait, les écueils ou en tout cas les limitations des premiers LLM parce qu'on voit souvent ça comme quelque chose de très performant, très efficace. Ça l'est. Ça vient quand même avec des limitations techniques, hein, c'est ce que tu disais. C'est pas un sujet facile, c'est simple à utiliser, mais c'est complexe à réaliser. Et il y a quand même des limitations, même dans les cas d'usage, il y a des choses qu'il faut bien garder en tête parce qu'on peut pas recevoir en fait l'information telle qu'elle est produite. Donc même dans les agents qui existent et qui vont venir, le résultat peut, il y a quand même un peu de fine-tuning à faire sur les modèles pour arriver à un résultat où on peut se dire que l'être humain, on n'a plus besoin de l'avoir sur cette partie de la chaîne de valeur.
Juste pour continuer dans la même direction, c'est sûr que c'est les Américains, les Chinois, ils ont une longueur d'avance par rapport à l'Europe, mais on constate quand même qu'il y a une volonté européenne d'avancer sur le sujet de recherche, sur l'investissement colossal qu'ils ont été investis les derniers mois pour rattraper ce retard, donc que ce soit en technicité, en modèle ou en infrastructure. Et si on fait le lien avec, ici avec le Luxembourg, donc quand Francesco l'a dit, on a vu ou constaté qu'il y avait un partenariat entre le gouvernement luxembourgeois et Mistral. Et en termes de, donc pour garder une certaine souveraineté européenne, et en termes d'infrastructure et en termes de machines, ce qui se passe maintenant chez Miluxina ou autre, ici sur la place luxembourgeoise, ça va donner un coup de pouce énorme parce qu'on voit quand même les challenges qu'on a sur le terrain. C'est que les modèles LLMs, ils sont consommateurs en termes de machines, des GPU. Et ces différentes solutions-là, ça va nous apporter, en tout cas nous, une certaine flexibilité pour passer à l'échelle en termes de l'utilisation de l'IA ou les génératives AI en toute sécurité parce que on les données, on a une maîtrise des données, où est-ce qu'il le flux de données, et ça reste quand même, si je parle chez nous, en interne, et avec une forte valeur ajoutée pour les différents métiers, pour les différents cas d'usage qu'on a identifiés. C'est des cas d'usage au-delà de création de contenu ou de texte. Les use cases de générative AI ou de l'IA, ça va au-delà de créer de contenu. On peut automatiser des process, on peut réduire des tâches qui sont répétitives pour que les différents employés se concentrent sur les tâches à forte valeur ajoutée.
Tu viens d'en toucher un mot. Je pense qu'il faudra peut-être éventuellement parler un peu des data centers, pouvoir de calcul. Je ne suis pas pro-américain, je suis vraiment un Européen dans l'âme, mais si on regarde ce qui se passe de l'autre côté, je pense déjà à l'heure actuelle, niveau data center, ils ont trois quarts de la puissance de calcul du monde. Il y a les plus gros data centers qui ont été construits par Elon Musk, donc Colossus, qui est une usine gigantissime avec le plus de GPU Nvidia sur une place. Stargate, le projet annoncé par Monsieur Trump au début d'année, ça va être un projet de la même ampleur. Je pense qu'ils vont terminer d'ici la fin de l'année. Quand on voit ces investissements-là dans le compute futur, puis on rajoute les acquisitions des grands acteurs Apple, Meta, Amazon, Microsoft, où ils veulent se fournir en énergie nucléaire sur les prochaines années, et ils sont prêts à investir même dans des projets de mini-réacteurs nucléaires, j'ai quand même l'impression que chez eux, ça va 3-4 vitesses plus rapidement que chez nous. Nous, on gère probablement la complexité, comme vous venez de le dire. Mais arriver au prochain niveau, surtout qu'on voudrait quand même bien être souverain dans cette technologie, je suppose, on a des années de retard et on n'a pas la même mentalité que les Américains.
Je pense que la solution n'est pas... Elle n'est pas si simple que de dire qu'on est juste en retard et il faut qu'on le rattrape. Je pense qu'on a déjà beaucoup de fondamentaux qui sont là, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, et qu'il faut exploiter, qu'on n'exploite pas pour ça aujourd'hui, mais qu'on peut en fait réorienter. C'est de la gestion de l'utilisation. Construire un nouveau data center juste pour ça, ce serait dire qu'on est arrivé au maximum de capacité d'exploitation des autres data centers qu'on a en Europe. On voit qu'il y a des initiatives au niveau de l'Europe pour investir, pour en créer d'autres. Alors là, je suis d'accord avec vous, c'est probablement en réaction, parce qu'on se rend compte que pour aller de l'avant, il faut qu'on investisse un peu plus, on n'aura pas assez avec ce qui existe. Maintenant, le point sur la souveraineté, parce que c'est un terme qui est complexe, hein, parce qu'il est avant tout philosophique à la base, puis maintenant, il y a une vraie définition qui est dans le droit, hein, qui est de dire que quand un État prend une décision, il n'est pas obligé, en fait, d'aller dans une direction pour sa propre volonté, dans le cadre du droit et de la limite de l'objectif qu'il cherche à atteindre pour la collectivité. Mais il fait ses choix en raison. Donc, on pourrait très bien se dire, dans un cas d'usage, on pourrait en fait utiliser de la puissance de calcul qui n'est pas en Europe, dans un temps transitoire. C'est aussi un choix souverain que de le faire. C'est juste que si on n'a pas la capacité de le faire chez nous, on n'est plus vraiment souverain parce qu'a priori, on n'a pas le choix que d'aller ailleurs. C'est là où on est obligé. Donc, pour le coup, on n'est pas obligé d'égaler la capacité, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans des batailles comme ça de combien en fait de capacité a les États-Unis versus l'Europe versus la Chine. Je pense qu'il faut juste apprécier le fait de quoi on a besoin, et surtout en fait dans l'évolution des prochains LLM, de quoi on a vraiment besoin de puissance de calcul, et quelle est la puissance de calcul qu'on va prendre par ailleurs parce qu'en fait, elle est disponible. Exactement le même schéma que sur le modèle d'électricité en Europe, par exemple, où en fait, l'électricité circule dans tous les pays, et on l'a vu avec l'Espagne, ça a permis en fait de pouvoir en fait les alimenter, hein. Donc ça s'arrête pas à la frontière, et on peut utiliser cette ressource-là, on doit la gérer, à mon sens, de la même manière que l'électricité. Toute puissance de calcul qui est disponible doit être consommée pour quelque chose et on doit pouvoir en fait le gérer. Sinon, on va se retrouver à construire ce que font les États-Unis, à construire des data centers dans tous les pays avec qui vont tous être privés, appartenir à des compagnies privées avec des tailles colossales. Et au bout d'un moment, en fait, seront partiellement utilisés parce que on n'aura plus besoin d'autant de puissance de calcul.
Moi, je pense que le problème, c'est l'indépendance stratégique. Moi, j'aime pas le terme souverain, mais je pense que le problème qu'on a, c'est l'indépendance stratégique. Donc, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, hein. Donc, les centres de données aujourd'hui, les data centers sont plutôt aux États-Unis. Il y a un autre problème, c'est que les data centers les peu de data centers qu'on vient de construire en Europe, ils utilisent des puces américaines. Et bon, il y aura bientôt des alternatives chinoises. Maintenant, le problème, c'est que si les data centers, ils deviennent une infrastructure critique, parce que ça, c'est la réalité, avec une intelligence artificielle qui devient nécessaire pour tout faire. Pensons par exemple à la défense, hein, qui est un sujet hyper important. Donc, est-ce que c'est un habilitateur de certaines opérations de défense? À un moment ou l'autre, il faut se poser le problème, est-ce que quelqu'un aux États-Unis ou en Chine pourrait dire « j'arrête de vous fournir les puces qu'ils vous font ». Et ça, ce n'est pas par hasard que je le dis, parce que le Luxembourg aujourd'hui est déjà touché. Donc, il y a eu une décision qui était encore de l'administration Biden, donc avant Donald Trump, qui a mis le Luxembourg dans une liste, une couche de pays qui n'ont pas l'accès illimité aux puces américaines. Hein. Donc, il faut déjà aujourd'hui pour le Luxembourg faire des procédures particulières pour avoir accès au-dessus d'un certain nombre de GPU, d'NVIDIA, de dernière génération, par exemple. Donc, c'est un sujet hein, et sur lequel l'Europe doit travailler. Donc, à mon avis, c'est impératif de lancer aussi des initiatives. Il y a des boîtes très intéressantes comme OpenChip, par exemple, qui développent des architectures de puces AI qui sont basées sur l'architecture RISC-V, donc Open, qui pourrait être une alternative européenne, mais on sait qu'il faut le temps. Hein. Il faudra des investissements, il faudra le temps de faire maturer ces technologies, mais il faut absolument le faire pour être indépendant.
Ouais, effectivement, donc on le sait, de toute façon, c'est un constat et c'est une réalité que de l'autre côté de l'Atlantique et la partie chinoise, ils sont beaucoup plus en avance sur ce sujet-là. Ici, pour avoir, comme Francesco l'a dit, de l'indépendance, on constate quand même qu'il y a une volonté politique d'avancer, d'y aller vers l'avant pour construire et rattraper le retard. C'est tout le mal qu'on souhaite à l'Europe pour avancer sur ce sujet-là.
Puis, je ne sais pas, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais la presse spécialisée en parle quand même aussi. On a un autre problème, probablement, et c'est le nombre de data qui est disponible. Donc, j'aime bien donner l'analogie d'Apple, par exemple. Si on regarde sur les grosses valeurs technologiques qui mènent la danse sur l'intelligence artificielle, Apple sont ceux qui ont toujours mis en avant privacy de leur data. Donc, en fait, à l'alimentation des modèles, ça vide la data. Google, ils s'en servent librement. Meta, ils s'en servent librement. Amazon, pareil. Microsoft, via leurs partenaires, je pense qu'ils font pareil. Mais Apple, ils disent non, on n'utilise pas nos données pour alimenter les modèles. Et si on regarde maintenant, Apple, ils sont nulle part. Est-ce que, en tirant une analogie, en Europe, avec la GDPR, avec la Data Privacy Law, est-ce qu'on n'a pas un désavantage par rapport aux Américains où c'est un peu l'esprit cow-boy, on va le dire, et à la Chine où tout le monde est transparent de toute façon? Donc, pour ces modèles, est-ce que les datas privées sont d'une telle importance?
D'abord, il faut dire aujourd'hui, les grands modèles comme GPT-4 ou les équivalents, ils sont entraînés sur des quantités de données tellement énormes qu'en fait, personne ne peut savoir exactement quelles données ont été utilisées pour les entraîner. Ce qui pose un problème parce que dans l'AI Act, c'est demandé de contrôler les données qui sont utilisées. Et on sait que c'est techniquement impossible. D'ailleurs, il y a des études, des recherches indépendantes qui ont montré, par exemple, que des données pédopornographiques ont été utilisées sans le savoir, hein, sans l'intention de le faire pour entraîner tous les grands modèles, etc. Donc, Ça, c'est un problème, hein, certainement, parce que ça couaque aussi avec la législation. Et je pense que l'autre problème, c'est que les modèles deviennent trop énormes. Donc, finalement, ils n'ont même pas accès à assez de données pour pouvoir s'entraîner. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces modèles énormes? Ça, c'est vraiment une question philosophique. Pour moi, c'est très important. Je pense que ce paradigme-là, qui est le paradigme gagnant aujourd'hui dans la discussion sur l'intelligence artificielle, on va développer des énormes modèles avec des énormes masses de données pour résoudre n'importe quel problème. C'est pas le bon paradigme. Il faut plutôt penser à des modèles plus petits, à des modèles spécialisés et à combiner des modèles petits et spécialisés entre eux. Et ça va résoudre aussi le grand problème de l'avenir, que c'est la consommation énergétique de l'intelligence artificielle. Parce que comme tu l'as dit, si on doit s'acheter des réacteurs nucléaires pour alimenter les data centers, si toutes les boîtes Microsoft, Google, etc., ils ont dû annoncer qu'ils n'arriveront pas à atteindre les objectifs climat qu'ils s'étaient donnés en 2025 à cause de l'IA, ça veut dire qu'on a un problème. Parce qu'à un moment, il n'y aura pas assez d'énergie, pas assez d'eau, parce qu'il faut l'eau aussi pour refroidir les data centers. Et donc, on va devoir faire des choix compliqués. Donc, je pense qu'il faut travailler. Certainement, nous, on le fait au LIST, où on essaye de travailler sur ce qu'on appelle l'IA frugale. Hein, et dans la data, c'est la même chose. Il faut travailler avec l'optique de minimiser la quantité de données dont on a besoin pour résoudre les problèmes.
La question des données privées, ou l'IA Act ou GDPR, donc c'est une vraie question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de gros modèles pour répondre? C'est en fonction des usages qu'on voit aujourd'hui, des besoins qu'on voit aujourd'hui, on le constate sur le terrain, c'est que la majorité des cas, on a besoin uniquement d'un modèle de taille petite, voire moyenne, pour répondre à ce besoin-là. Donc la quantité de données, hors la quantité de données, donc bien évidemment, on ne sait pas sur quelles données elle a été entraînée, parce que c'est des modèles qu'on récupère, on ne le conçoit pas. Au-delà de la quantité de données, ce qui est le plus pertinent, c'est la qualité de données. De toute façon, c'est un modèle, on l'entraîne chez nous sur des données qui sont de mauvaise qualité. La réponse, au-delà de l'hallucination, il peut être majoritairement fausse, voire complètement fausse. Donc, au-delà de la quantité de données, c'est la pertinence de la donnée par rapport à un use case, parce qu'on ne va pas utiliser l'ensemble des données pour l'ensemble des use cases, mais plutôt le cas d'usage à résoudre et la problématique à résoudre et utiliser les données les plus pertinentes de bonne qualité. Donc ça, c'est un point qui est quand même très, très important.
Peut-être juste pour compléter et sortir un peu du champ de la technique, même si j'adore ça, je pense qu'au-delà de ça, partant du principe que la techno est là, qu'on arrive à en faire quelque chose de frugal, et je pense que c'est l'objectif. Hein. Encore une fois, c'est venu du champ de la recherche, hein, donc ça vient avec des hypothèses au départ qui sont très larges, pour en fait éprouver le sujet et montrer que ça marche. Après, ça doit être raffiné pour minimiser ce dont on a besoin. Sinon, a priori, on roulerait tous en camion aujourd'hui. Hein. Si les voitures avaient commencé comme ça, on serait dans le même phénomène. Hein. On serait tous en bus. Mais peut-être un des points qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi les compétences qui sont nécessaires pour en fait ensuite déployer ces technologies dans une banque, par exemple. On n'est pas tous chercheurs, on n'a pas tous un PhD, et pour autant, si on a besoin à chaque fois d'avoir un PhD, encore une fois, on n'est pas sauvé, parce que, enfin, quand même, évidemment, il va falloir éduquer les nouvelles générations à comprendre ces technologies, à savoir les construire, etc. Mais on sait, en fait, comment se répartissent, en fait, les diplômes dans les nouvelles générations. On n'a pas une majorité de PhD. C'est un fait. C'est pas une histoire d'intelligence des personnes, hein. C'est plus une volonté de creuser des sujets, etc., d'être passionné par ça. Donc je viens pas dire en fait que la majorité des personnes sont pas capables, mais c'est pas forcément la volonté des gens d'aller vers ça. Donc on va avoir des ressources qui seront pas forcément disponibles sur le marché, d'autant plus à Luxembourg où on n'a plus la loi des grands nombres, des universités ne va sortir encore moins de PhD que dans d'autres pays. Donc c'est inévitable. Donc il faut arriver en fait à trouver ces compétences et à trouver des modèles d'éducation ou des modèles en fait de déploiement où les gens arrivent à les utiliser en toute sécurité sans forcément comprendre in and out ce qu'il se passe. Et Francesco le disait tout à l'heure, il y a quand même peu de gens qui comprennent comment ça fonctionne vraiment un LLM à la fin. Hein. Même dans la communauté des PhD, hein, parce qu'ils ont aussi d'autres choses à faire que de creuser ce sujet-là. Hein. C'est pas le seul sur lequel ils sont occupés, loin s'en faut. Donc, il y a la question des compétences, ça c'est d'une chose, et puis il y a la question aussi de l'acculturation des gens qui vont l'utiliser. Parce qu'encore une fois, c'est venu par le domaine public, hein, et c'est heureux que la recherche reste comme ça. Mais donc, il y a une compréhension des gens qui a été fait par eux-mêmes dans leur utilisation au quotidien, qui n'est pas forcément en fait l'usage qu'on veut en avoir dans les entreprises, ou en tout cas ce qu'on veut en faire. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer aux gens pour leur expliquer comment on va l'utiliser, quels sont en fait, et c'est peut-être aussi ça le sens de l'IA-Act au-delà des données, c'est pour quel usage, à quelle fin, comment ça les supporte, parce qu'il y a quand même un sujet qui est un peu philosophique aussi, qui est de dire ce qu'on va commencer à déléguer à une machine et qu'elle va faire sur la première génération, ça va être en fait quelque chose qui sera bien compris, parce que les gens dans le terme, sont augmentés par la technologie qui les aide, comme n'importe quel applicatif qui les aiderait. Il y a une partie du processus qu'ils ne font plus parce que c'est fait par une autre machine et ils savent le monitorer parce qu'ils le comprennent. La réalité, c'est qu'il y a un passage de connaissances à faire sur les générations d'après pour que la connaissance ne se perde pas. Parce qu'on ne peut pas être conscient de quelque chose qu'on n'a pas appris. Et donc, automatiser un processus existant, j'ai envie de dire, ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du changement un peu classique. Vous supportez par une machine ou par une application, c'est facile. Mais demain, si vous voulez pas perdre la compétence du domaine dans lequel vous êtes impliqué, il est absolument nécessaire, en fait, de remettre ce processus qui n'est plus exécuté par un humain dans le socle de connaissances à avoir pour que les gens comprennent comment ça se passe. Si on prend un exemple concret, si demain, en fait, plus personne fait le KYC parce que c'est des machines qui le font, il faut quand même que les gens comprennent ce qui se passe derrière. Pourquoi on fait du KYC? Ils ont pas besoin de connaître la réglementation, mais quels sont les documents qu'on collecte, etc. Plutôt que d'avoir, à la fin du processus exécuté, oui, c'est bon, on peut avancer. Ce qui va se passer dans le processus d'automatisation. Donc là, je pense c'est un autre challenge à relever au-delà du challenge technologique, c'est comment on s'assure que les gens restent toujours bien conscients de ce qui se passe et restent encore impliqués dans le process pour aller vers le point de Rachid qui était de dire qu'il soit plus efficace et qu'il fasse des tâches à plus forte valeur ajoutée. Parce que ça passe aussi par comprendre ce qui s'est passé avant.
Ouais, ce que tu dis là, c'est un point essentiel et important sur l'acculturation des salariés et des employés. Et même l'IA Act force un peu que les utilisateurs comprennent ce qu'ils utilisent et que les utilisateurs ils sont conscients qu'ils interagissent avec un bot ou avec une machine, etc. Et l'acculturation, ça concerne à tous les niveaux de l'entreprise. Hein. Donc, ça concerne pas uniquement ceux qui utilisent, mais aussi le board pour appuyer la stratégie, pour financer la stratégie. Et donc, je veux raconter un peu une petite histoire, c'est que comment nous, on arrivait à faire adopter et donner de l'appétit aux différents utilisateurs. C'est qu'on a commencé par une formation du top management et puis on a proposé aux différents services de désigner un champion AI ou un data citizen qui soit notre interlocuteur. Et ces gens-là ont suivi une formation sur quelques jours avec des exercices pratiques de réalisation de la GenAI, etc. Et on leur a demandé, maintenant que vous comprenez ce qui est l'IA et ce qui est le GenAI, dites-nous comment cette technologie-là peut vous aider dans vos travaux quotidiens. Et on était assez surpris, on a reçu quand même une cinquantaine de use cases en quelques semaines. Donc ça montre un peu que l'acculturation et la formation aident à l'adoption et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies-là. Et c'est un point très, très essentiel que tu as évoqué, Nico.
Si je peux encore rebondir sur ce sujet, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est un sujet hyper important. Et le fait que nous, on a des chercheurs, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient. Mais justement, parce qu'on se pose vraiment le problème, il n'y aura jamais assez de chercheurs, assez d'experts pour suivre la vitesse à laquelle la technologie de l'intelligence artificielle elle est en train d'évoluer. Et bientôt, on ne réussira plus, ni nous, ni les banques, ni les acteurs industriels, à trouver assez de développeurs de logiciels, d'experts de IA. Et donc, ce qu'on fait, nous, pour essayer d'adresser ça, c'est qu'on est en train de créer une plateforme complètement open source, hein, qui s'appelle Besser, qui permet de pouvoir développer automatiquement des logiciels qui intègrent de l'intelligence artificielle sans être des experts. Donc, tout simplement, pour le moment, c'est plutôt une interface graphique, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir dialoguer avec un chatbot, exprimer ce dont on a besoin et à obtenir en sortie le logiciel qu'il nous faut. Hein, et ce qui, en partie, c'est déjà possible avec les modèles. Aujourd'hui, on peut déjà développer du code, relativement bonne qualité. Mais ce qui est très important, c'est de le faire dans une façon sécurisée qui ne contient pas des erreurs ou des possibilités d'attaque, par exemple, qui est très important dans le logiciel, et d'être dans une logique de open source. Pour moi, c'est aussi très important pour pouvoir démocratiser l'accès à toutes ces technologies-là.
C'était assez, assez précis sur le fait que même si ça va nous permettre d'améliorer les choses, il nous faudra toujours des experts pour superviser cette technologie. Donc je pense que c'est un danger parce que les gens vont avoir tendance à se fier à cette technologie à 100%. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme danger qui sont liés à l'intelligence artificielle ou generative AI qui vont venir? Je pense encore à la cybersécurité parce que voilà, c'est sympa de l'utiliser pour des fins productives, mais bien sûr, il y en a des malins qui l'utilisent à des fins plutôt contre-productives. C'est quoi les autres dangers et problèmes que vous voyez?
Moi, je suis très intéressé par le sujet du biais. Donc, on a fait un travail qui s'appelle List AI Sandbox, qui est aussi disponible en ligne, librement, pour tous, pour mesurer, tester le biais dans tous les modèles d'intelligence artificielle, commerciaux ou open source, et dans toutes les langues, hein, parce que c'est impacté aussi par la langue. Donc, ça, c'est un énorme sujet, hein, parce que s'il y a un modèle qui est raciste ou qui est homophobe, ça se reflète après dans les réponses qu'il donne. Ça devient un problème aussi parce qu'encore une fois, c'est illégal dans le cadre de l'AI Act si on l'utilise dans un contexte professionnel. Et donc, avec l'AI Sandbox, on peut aider et on aide l'administration publique plutôt que les entreprises déjà à être conscient de cette limitation et après aussi à, disons, à choisir les meilleurs modèles par rapport à un certain besoin de réduire un biais spécifique ou à améliorer leur modèle avec du fine-tuning, avec des autres techniques qui existent pour améliorer les réponses. La cybersécurité, c'est aussi un grand sujet. Surtout parce que cette tendance maintenant de ce qu'on appelle le vibe coding, hein, dans le monde des experts, donc de développer du logiciel, du code avec les modèles, ça crée du code qui est fragile, hein, qui n'est pas un code qui est sécurisé contre les attaques informatiques. Donc si on commence à intégrer ce code dans des solutions, on devient facilement exposé à des attaques. Et donc là aussi, on travaille pour essayer d'identifier ce risque et de réduire le risque en entraînant des meilleurs modèles pour faire du code qui est plus robuste.
Oui, je pense que tu as couvert en effet les principaux risques, j'allais dire, ou dangers externes, hein, qui sont liés à l'usage du GenAI. Je pense que pour une entreprise en interne, la complexité, c'est que, par exemple, parce que tu as cité avant, il y a beaucoup de use cases qui ont été identifiés, une cinquantaine. Un des risques, c'est de déployer du GenAI pour déployer du GenAI, parce qu'il faut montrer qu'on en fait. Je pense que même en fait...
Ça, c'est le AI washing.
C'est un peu ça, oui. Et je pense que c'est super important à la fin pour une entreprise, c'est d'évaluer qu'est-ce que ça lui apporte. Qu'est-ce que ça lui apporte vraiment? Parce que ça coûte. Forcément, ça vient avec un coût. On en parlait, il faut acheter de l'infrastructure, il faut le développer. Ça ne va pas forcément très vite. On constate que la plupart des projets d'AI ou de GenAI sont en overrun par rapport à leur estimation. Pourquoi? Parce que je pense qu'on l'a pas mal évoqué en fait, dans notre discussion. C'est plus que juste utiliser un LLM. C'est tout un écosystème, en fait, qui est impacté et ça va, en fait, de la personne qui l'utilise à la techno qu'on utilise, au sous-jacent d'infrastructure, comment on provisionne l'infrastructure. Et tout ça, en fait, quand on commence à faire des projets, c'est un peu ce que tu disais, Rachid, on se rend compte que, ouais, il faudra peut-être plus de puissance de calcul. On l'avait pas anticipé. Il faut en acheter. Et c'est pour préparer le futur, donc tout ça fait du sens. Mais les premiers projets coûtent plus cher que ce qui était anticipé. Donc il est tout à fait essentiel de bien évaluer le business case. Qu'est-ce qu'on va y gagner? Côté business, à la fin, parce qu'il faut, on peut investir quelques années parce qu'il faut s'y mettre, mais au bout d'un moment, il faut quand même y gagner, sinon ça va pas fonctionner. Là où je veux en venir, c'est que probablement que si l'adoption se fait que sur, par exemple, les 50 use cases que vous avez, vous aurez pas fait, en fait, la transformation nécessaire pour vraiment adopter cette technologie-là. Et le point à la fin, c'est pas d'adopter du GenAI, c'est comment en fait ça vous aide à vous transformer, à être plus efficace, à être peut-être faire plus avec le même nombre de personnes, etc. Parce que c'est ce qu'on voit dans le secteur financier. Les départements sont sizés d'une manière. C'est toujours en fait compliqué. C'est toujours compliqué à exécuter les processus. Il y a probablement jamais assez de personnes. Il y a beaucoup de problèmes de qualité de données. Il y a beaucoup de choses à remédier. Il y a beaucoup d'experts en fait qui regardent. À la fin, si on a juste réglé les quelques pain points qui étaient un peu en fait les quick wins qu'on pouvait faire et qui étaient faciles à faire, on n'aura pas vraiment changé ou apporté la valeur ajoutée qui était vraiment nécessaire. Donc, un des dangers, c'est de ne pas en fait réfléchir à l'ambition qu'on se donne avec cette technologie-là. Et c'est vrai pour toutes les technologies, en fait. Hein. C'est essayer de l'adopter pour l'adopter. Mais de manière générale, comment ça s'inscrit, en fait, dans la vision que vous avez, dans le fonctionnement, si je parle de l'âge pour caisse, dans le fonctionnement de l'âge pour caisse d'ici 5-10 ans?
Bon, comme je disais tout à l'heure, chaque nouvelle technologie vient avec ses propres dangers et l'AI Act qui est quand même orienté, c'est une approche basée sur le risque et limite ce risque-là. Et pour les bien mitiger, ici, le challenge, c'est de bien utiliser et de faire trouver un équilibre entre la régulation et l'innovation. Donc ça, c'est le challenge. Et les 50 use cases dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est notre point de départ. Là, on est en train de dérouler la stratégie AI pour donner la vision à 5 ans, où est-ce qu'on veut y arriver, où est-ce que la banque souhaite être arrivée, comment cette technologie peut aider la banque, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de finaliser, mais tu as raison, hein, parce qu'il y a plusieurs use cases, c'était pas vraiment de l'AI ni de la GenAI, mais tout simplement du simple reporting. Donc ça aussi, c'est le danger qu'on pense que c'est de la GenAI la solution, mais à la fin, c'est non, c'est juste de la data, c'est une simple problématique data.
C'est un peu dommage qu'on ne soit pas coté à la bourse, parce que sinon, notre cours de bourse aurait fait plus 5, plus 10, juste parce que tu as dit qu'on travaille sur des projets AI, juste pour vous dire quelle est l'ampleur dans le marché. Mais peut-être pour finir, quelles sont les opportunités et tendances que vous voyez? Donc, il y a des gens qui disent c'est l'automatisation, c'est les robots, c'est les voitures autonomes. Qu'est-ce que vous voyez faisable dans un horizon assez proche?
Ce qu'on voit, donc on est parti de l'AI classique. En 2022, on a commencé à partir de la générative AI. On a déployé les premiers use cases autour des bots. Là, c'est qu'on commence à voir ce qui arrive, c'est tout ce qui est l'AI agentique, donc c'est-à-dire des agents qui sont capables d'être autonomes, d'exécuter un certain nombre de tâches. Donc ça, c'est ce que personnellement je vois venir dans un futur très très proche.
Donc ça, c'est un assistant comme Siri, mais sur des stéroïdes, donc qui peut te faire les rendez-vous, qui peut te booker ton coiffeur, qui peut t'écrire un mail à tes chefs pour dire que t'as pas envie de venir au travail. Ça, c'est l'AI agentique.
C'est l'AI agentique, oui. Il peut, par exemple, réserver ton... Tu lui dis que je suis en congé telle semaine, réserve-moi un voyage dans la région. Il va accéder à ton agenda, il va réserver ton vol, il va réserver l'hôtel, etc. Oui, on tend vers des choses comme ça.
En effet, c'est vers là qu'on va. Et peut-être que ce qui va se développer aussi par ailleurs, c'est pas uniquement l'augmentation de cette technologie-là. Elle va toucher tous les secteurs d'activité, c'est déjà le cas. Hein. Fondamentalement, un processus de recherche et développement ne regarde pas qu'une seule technologie. Il améliore un process en continu. Donc évidemment, tout le monde va essayer de voir comment cette technologie-là peut améliorer le processus. Donc oui, les voitures autonomes, ça va contribuer. Je parlais des drones tout à l'heure, ça va continuer. Dans la santé, ça va continuer. Ça a déjà été intégré, ça va continuer aussi. Tout le monde, en fait, veut aller vers plus d'efficacité. Il y a des sujets qui servent beaucoup plus, en fait, l'humanité que d'autres. Ça, c'est certain. Mais fondamentalement, ça va s'appliquer partout. Ce n'est pas non applicable à une technologie en particulier, ou en tout cas, un processus en particulier. Donc pour ça, on va le voir encore apparaître. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Peut-être sur l'agentic AI, un point qui est quand même important à considérer. Donc si on repart juste d'une définition, donc on a un agent, ça exécute une tâche. Donc c'est celui qui fait le summary de votre mail, qui prend votre rendez-vous, qui regarde pour vos vacances. L'agentic, c'est des agents qui collaborent ensemble à un objectif commun. Tout ce qu'on a dit avant en termes de limitation, la causalité, le biais, etc., ne va qu'augmenter en fait en mettant des agents ensemble. Vous avez vu des exemples probablement sur YouTube d'agents qui parlent ensemble et qui débattent. Ils arrivent jamais à la fin hein, parce qu'ils ont ils ont toujours en fait un avis à donner. Et donc ça c'est un des aspects super super importants qui n'est pas du tout technologique là, c'est la gouvernance de ces agents. Comment vous allez gérer ça? Comment en fait vous allez vous assurer que l'interférence vient pas changer le comportement d'un autre agent? Surtout quand ils vont commencer à prendre des décisions qui sont importantes pour vous, parce que vous allez pas mettre ça sur des sujets qui sont juste en fait sympas à showcaser en termes d'innovation. Vous allez commencer à mettre ça en fait dans vos processus métiers. Un agent, ça va bien se passer. Deux agents, faut réfléchir quand ils travaillent sur les mêmes données, comment ils s'interfèrent, comment on va gérer ça et comment ils se biaisent pas les uns les autres et comment on va gérer le déploiement de cette en fait, de cette nouvelle workforce qui est totalement digitalisée. C'est pas du tout, autant il est très simple, en fait, quand on a fait une erreur de passer une note de service dans le back office pour dire, tenez pas compte de cet aspect-là et les gens en tiennent compte. Autant pour une agentic AI, ça, peu plus compliqué de changer le comportement d'un agent quand il est déjà en fait déployé. Donc ça va être pour moi un des sujets importants à bien réfléchir pour une entreprise qui veut commencer à développer de déployer de l'agentic AI.
Et juste pour compléter un peu, je te passe la main, Francesco. Heureusement que l'AI Act n'autorise pas que les machines doivent prendre la décision tout seul. Il y aura toujours une collaboration entre la machine et l'humain. Donc ça, c'est important à signaler, c'est la machine ne peut pas prendre une décision toute seule sans l'apport humain.
Effectivement.
Oui, je suis d'accord certainement que les agents sont un sujet de l'avenir, c'est déjà une partie du présent. Mais là, encore une fois, les limites que j'ai essayé de souligner pendant cette conversation, elles vont devenir encore plus graves, hein, parce qu'en fait, vous donnez le pouvoir à un agent de prendre des décisions et d'exécuter des tâches complexes. Ça veut dire que si quelque chose ne se passe pas correctement, les conséquences deviennent encore plus graves, hein, parce que c'est une chose d'avoir une réponse écrite par un chatbot qui n'est pas juste, c'est une autre chose d'avoir un voyage réservé qui n'est pas dans le bon endroit ou qui ne correspond pas à mes attentes. Donc, il faudra encore plus d'attention et de travail sur tout ce qui est assessment et testing de l'intelligence artificielle. Je pense que ça, c'est un grand sujet. Et surtout à Luxembourg, je pense, où le pays est très fort dans tout ce qui est combinaison entre l'innovation technologique et l'innovation dans la régulation. Il y a vraiment de la place pour faire comme ça un atout unique du pays, de devenir un peu le centre de référence en Europe et peut-être un jour dans le monde pour pouvoir tester et valider et certifier avec les autorités comme la CNPD, la CCCF et les autres régulateurs, quels sont les modèles et les systèmes d'IA qui sont capables de respecter la loi et les principes éthiques du pays et tout ça. Et donc là, je vois vraiment un développement important.
Messieurs, je vous remercie. Et merci Nicolas, j'ai une très bonne idée. Je pense qu'on va travailler sur un projet où on va faire parler des agents au lieu d'inviter des gens et on n'aura plus besoin de modérateurs. Comme ça, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup.
Evergreens by Spurkiss. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.